Professeur Mwaila Tiembe, bonjour.
Bonjour.
Les Américains élisent leur président aujourd'hui. Et pourquoi cette élection attire le monde entier selon vous?
Mais les États-Unis sont la première puissance du monde. L'économie américaine se porte plus ou moins bien, le chômage a sensiblement baissé. Et sur les questions internationales, que ce soit les anciens conflits, notamment de l'Irak et de l'Afghanistan, la guerre actuelle de Syrie, l'Amérique est de tous ces conflits et la recherche des solutions. Donc, en tant que grande puissance mondiale, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les élections des États-Unis intéressent tout le monde, y compris les non-Américains.
Et quels sont les points de convergence entre les deux candidats dans leur discours de campagne?
Disons qu'il y a une sorte de division du travail. Madame Clinton, on est dans l'assurance, dans la continuité. C'est la tradition libérale en matière d'économie, soutien ferme aux alliés, les alliés de l'OTAN et les alliés européens. Madame Clinton est partisan de ce qu'on a appelé le retournement du monde, c'est-à-dire le basculement des États-Unis vers le pivot, vers l'Asie. Madame Clinton a essayé de théoriser cette notion des pivots qui fait que dorénavant, les États-Unis doivent se tourner vers l'Asie et essayer de reconsidérer leur relation jusque-là centrée sur l'Europe et le Moyen-Orient en les ouvrant à l'Asie. Trump a dit que dorénavant, les alliés doivent payer le prix de la sécurité, sinon l'Amérique se retirerait. Bien sûr, il faut faire la distinction entre les propos de campagne et la réalisation. On verra sur le tas s'il est élu et ce qu'il est capable de faire.
Et professeur, le candidat qui sera élu va remplacer Barack Obama, qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme en Afrique. Qu'est-ce que les Africains finalement retiendront de l'administration de Barack Obama?
Mais lorsque le président Obama est élu, nous avons mis en garde les Africains qui, par sentimentalisme, avaient considéré que M. Obama, bien que président des États-Unis, se cramponnerait ou améliorerait ou détournerait la politique étrangère des États-Unis pour le ramener à l'Afrique, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que la politique étrangère des États-Unis est centralement reposée sur le Moyen-Orient, sur l'Europe et sur l'Asie, et secondairement sur les relations latino-américaines, notamment son alliance avec le Canada et le Mexique. Alors, le président Obama a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croyait, il avait sous la main les deux guerres, la guerre de l'Irak qu'il fallait finir, la guerre de l'Afghanistan qu'il fallait finir, ce qui fut fait. Il a fini avec Ben Laden, même si la mort de Ben Laden n'a pas mis fin à la guerre, c'est-à-dire au terrorisme. Donc, pour les Africains, M. Obama, c'est un président américain. Tous les présidents américains ont été élus d'abord pour les intérêts de l'Amérique et non pas pour les intérêts de leurs alliés. Et évidemment, M. Obama n'a posé la déception que chez les naïfs qui croyaient qu'un président des États-Unis, à cause de sa peau, allait sacrifier la politique des États-Unis vers des horizons comme l'Afrique, ce qui n'était pas le cas. Je pense que les spécialistes de la politique étrangère des États-Unis ne sont pas surpris. Il n'a fait que ce que peut faire un président américain.
Et la République démocratique du Congo singulièrement, qu'est-ce qu'elle retiendra de l'administration de Barack Obama?
Obama, comme sénateur, avait été parmi les jeunes qui ont initié la loi sur les minerais de sang, disons, en demandant aux États-Unis de ne plus acheter n'importe quoi, de faire en sorte qu'il y ait une sélection et les mesures sur la Kimberley, c'est-à-dire l'obligation de vérifier l'origine des minerais, de les certifier et de le vendre à l'étranger, M. Obama y est pour quelque chose. Alors, depuis que la RDC était en guerre, notamment avec ses voisins de l'Est, et les menaces de balkanisation de la RDC, les États-Unis, sous le gouvernement d'Obama, ont voté toutes les résolutions au Conseil de sécurité, confirmant la souveraineté de la République démocratique du Congo et posant le principe de son intégrité territoriale. Et depuis que la République démocratique du Congo est en balance entre la fin du régime, le mandat de M. le président Kabila et les compromis que les Congolais peuvent trouver, les États-Unis sont toujours revenus à charge pour demander aux Congolais de respecter leurs propres lois, notamment la Constitution. discussion et de trouver le compromis dynamique qui permette l'inclusivité pour trouver une solution négociée à la question. Donc jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas changé de désirata sur ce point et espérons que le compromis qui a été trouvé au dialogue sera une opportunité pour le président Kabila et ses alliés de faire en sorte que par la CENGO interposée, qu'on puisse ramener à l'accord ceux qui ne le sont pas encore, c'est-à-dire le groupe de l'opposition radicale.
Et quelles peuvent être les attentes des Congolais par rapport à cette élection?
Écoutez, les Congolais peuvent toujours souhaiter soit que Mme Clinton soit élue ou M. Trump. Mais en réalité, les États-Unis sont les alliés traditionnels de la République démocratique du Congo. Quel que soit le président qui sera élu, Mme Clinton ou M. Trump, je ne vois pas beaucoup de différence dans l'hypothèse où les choses étaient telles qu'elles sont. Je pense que les États-Unis souhaiteront demain que l'accord qui a été signé soit inclusif et que ce pays aille vers les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées pour éviter que ce pays bascule dans une énième crise comme on l'a connu avec le 23, la prise de Goma, etc.
Et professeur Moïla Tiembe, je vous dis merci.
Merci à vous.